Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi en studio, Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée.
Bonjour Marie.
L'ébénisterie, c'est un vrai métier d'art. Et pourtant, fabriquer en France des meubles en bois, chêne ou hêtre issus de nos forêts françaises est une activité devenue rare. Au début des années 2000, les manufactures nationales comptaient 30 ou 40 entreprises. Aujourd'hui, elles ne sont plus qu'une petite douzaine. Parmi lesquelles, Drugeot Manufacture, entreprise familiale angevine de père en fils. Au début des années 2000, l'atelier a fait une véritable révolution en passant de meubles rustiques à la création contemporaine de pointe, tout en gardant les codes ancestraux de l'ébénisterie. Quels sont les outils et les techniques à leur disposition aujourd'hui ? Quelle est l'évolution de l'entreprise, ses influences et la surprise d'une sélection au mobilier national ? Pour vous, nous avons poussé la porte de la manufacture Drugeot. On plonge aujourd'hui dans le monde magique de l'art du bois avec Pierre Rochepot, co-dirigeant de l'entreprise. C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
En Anjou, sur les bords du ruisseau Drugeot, la famille Rochepot fabriquait des tonneaux à cidre. En 1969, Jean-Louis Rochepot crée un atelier de fabrication de meubles en bois massif. Un style traditionnel, rustique, de bonne qualité. En 2000, ses fils, Pierre et Mathieu, reprennent l'entreprise. Aujourd'hui, Drugeot, c'est 12 salariés, 8 en production et 4 sur le commercial réseau. Direction l'atelier d'assemblage avec Pierre Rochepot au cœur de la production. Prêtez l'oreille.
Là, nous sommes dans l'atelier d'assemblage. Donc, Damien et Thomas, vous avez vu, de l'autre côté, on fait des pièces détachées. Et puis là, on les assemble. Donc, vous avez des racks où il y a toutes les pièces détachées. Et on vient assembler la contremarque. C'est-à-dire qu'on stocke, on stocke des pièces détachées et on assemble quand c'est vendu. Ce qui permet de ne pas avoir de stock de produits finis. Donc il y a des exceptions, là vous voyez Damien il est en train d'assembler des pieds de table, donc des pieds cintrés, et là on fait en série parce qu'il y a plein d'opérations, donc c'est plus intéressant de regrouper toute la série que de les faire une par une.
Alors, vous l'avez entendu, hein, on est allé faire une bande-son en direct dans l'atelier. Alors tout en perpétuant le savoir-faire du travail du bois, les frères Rochepot veulent s'amuser, créer et bousculer les codes de l'ébénisterie traditionnelle. Grâce à la Chambre de commerce du Maine-et-Loire, Pierre Rochepot présente dans un salon professionnel en Angleterre un prototype totalement décalé, la bibliothèque K.O., qui est toujours au catalogue, et c'est le début d'une aventure incroyable.
J'ai créé une petite bibliothèque qui s'appelle K.O., qui est toujours à la gamme, et je l'ai emmenée là-bas, et j'ai vu tout de suite qu'il y avait un succès et un intérêt pour ce produit-là, donc c'était du mobilier déstructuré. On cassait vraiment les codes du mobilier fonctionnel. On gardait le savoir-faire traditionnel, c'est-à-dire du bois massif, des beaux assemblages, un beau travail d'ébénisterie, et puis du bois clair. Donc, à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc, j'ai créé d'autres modèles que j'ai exposés ensuite, 4 mois après, à Maison et Objets, c'est ça, Villepinte, sur un tout petit stand, pareil, dans le fin fond d'un hall, on était complètement invisible. Mais il y a des acheteurs qui font très bien leur travail, parce qu'ils sont venus jusqu'au bout de ce hall où on était quasiment tout seul, un peu perdu. Et pareil, on a eu le magasin Flux à Paris, qui est dans le Marais, qui est une référence en décoration. Et ils nous ont tout de suite repérés, ils ont passé une commande. Il y a eu un Japonais aussi, donc on a expédié les premiers mobiliers au Japon. Enfin, voilà, c'était assez incroyable ce premier salon avec la gamme qui s'appelait au départ Drugeot Labo. Donc labo, laboratoire, terrain d'expérimentation, on ne soucie pas du succès commercial, on ne fait pas du tout d'analyse marketing, on crée et puis on voit si ça marche. En gros, c'était ça la démarche. Et de fil en aiguille, eh bien, on a continué à créer. On a eu pas mal de presse et ça fait boule de neige. Liège, les designers sont venus nous voir en nous proposant des modèles. Donc, petit à petit, cette gamme Drugeot Labo a pris le pas sur la gamme traditionnelle. Donc, on a complètement laissé de côté la gamme Tradi, Merisier, Pied Tourné, Louis-Philippe, etc. au profit de la gamme Drugeot Labo.
Alors, on l'a compris, au départ, pas de recherche marketing, de la création avant tout. Le bois maintenant. Les planches de chêne massif arrivent directement à la scierie. Il faut choisir le bois, appairer, chevillés, poncés, moulurés. J'ai pris mon temps parce qu'il ne faut pas se tromper. Autant de vocabulaire technique, reflet d'un savoir-faire de précision. Comment se fait ce travail sur le site, l'usinage, le choix des planches, les différentes étapes de la production ?
La première étape, quand on reçoit les planches de la scierie, la scierie qui est située à côté de Rennes, appartenait de Bretagne, la première étape, ça va être d'enlever les défauts, entre guillemets, du bois, c'est-à-dire les fentes, l'aubier, qui est la partie la plus tendre sous l'écorce du bois, les nœuds, les picots, les langues de chat, etc. Donc tout ça, on va l'enlever. Donc on va déligner les planches, et puis ensuite, on va les tronçonner, donc faire des morceaux. On va dire de bois sain, et puis tous ces morceaux qui sont sans défaut, on va les recoller les uns avec les autres, coller à plat joint, on appelle, et pour former ce qu'on appelle un panneau. Et ce panneau-là, ensuite, il va être usiné dans notre atelier, donc soit avec des outillages traditionnels, les toupies, les dégots, les raboteuses, la scie à format, la calibreuse, la ponceuse, soit avec l'outillage en commande numérique, donc on est équipé d'une commande numérique en 5 axes et puis une autre en 3 axes. Donc la 3 axes, elle travaille sur un plan, et la 5 axes, elle travaille en volume, ce qui nous permet de travailler vraiment dans l'épaisseur de la matière. C'est intéressant pour donner du relief au meuble et puis pour montrer vraiment l'épaisseur et la chaleur du chêne massif. Une fois que tout ce travail d'usinage donc va être fait, donc l'usinage ça permet de faire des moulures, ça permet de faire des rainures, des languettes, des tenons, des mortaises, donc tout un vocabulaire technique. On va assembler toutes ces pièces-là. Donc là, on arrive à l'atelier d'assemblage, de montage, où là, on fait un travail très minutieux de ponçage manuel avec les ponceuses orbitales, de chevillage, de collage. Voilà, donc on a besoin d'un travail très soigneux. Il ne faut pas laisser passer d'éclats, de rayures. Et c'est ce que sont habitués à faire les personnes qui font le montage.
Et vous avez parlé aussi d'établir un bois.
Alors l'établissement du bois, ça demande un vrai savoir-faire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour faire un panneau, on utilise différents morceaux de bois. Ces morceaux-là, il faut qu'ils soient homogènes en couleur et puis même en veinage. Veinage de bois. On prend plusieurs morceaux, puis on va les appairer. C'est un autre mot, les appairer pour qui se ressemble, s'assemble, pour qu'on ait l'impression que ça soit un seul et unique morceau au final.
Alors très vite, après son audace réussie du départ, l'entreprise elle a fait appel à des designers pour structurer sa gamme et ne se centrer elle uniquement sur le travail du bois.
Une dizaine de designers qui collaborent régulièrement avec nous, un peu tous les pays. Tout ça chapeauté par un directeur artistique qui s'appelle Frédéric Solou, qui lui est chargé de la cohérence de la gamme. L'idée, c'est que les clients, ils ont l'impression qu'il y ait un seul designer qui soit à l'origine des produits, qui ait vraiment une ambiance générale qui soit cohérente. On a souhaité faire évoluer aussi la marque. On s'est assagi un petit peu par rapport au bureau rebelle dont vous parliez tout à l'heure, que vous pouvez aller voir sur le site, où on avait des choses très décalées, très déstructurées. Mais il a fallu faire un choix parce que ce bureau rebelle, il marche très bien dans des galeries. Il y a un côté artistique assez développé et c'était pas forcément notre clientèle. Donc soit on s'adressait aux galeries, mais il fallait monter en gamme et aussi monter en prix. Et c'est pas forcément ce qui nous intéressait. Nous, on voulait rester sur des prix moyen haut de gamme et puis avec une clientèle moins sélective, plus large. Donc c'est pour ça de Drugeot Labo on est passé à Drugeot Manufacture qui met en avant le côté artisanal et manuel de notre fabrication. Et aujourd'hui tout le monde nous connaît sous le nom Drugeot Manufacture. Voilà l'histoire en quelques mots de l'entreprise.
Alors l'histoire de l'entreprise et surtout son positionnement vis-à-vis de la clientèle, pour le comprendre, on a demandé à Pierre Rochepot, dont les créations ont été à l'origine de l'explosion de la marque, s'il créait toujours des modèles.
Non, j'ai plus le temps. Malheureusement, j'ai plus le temps. Non, j'ai arrêté. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on ne peut pas être bon partout. Et les designers, ils ont un regard à 360 degrés. C'est des gens qui ne s'intéressent pas qu'aux meubles, ils s'intéressent à tous les secteurs d'activité. Ils vont regarder ce qui se fait dans le domaine de la mode, de la voiture, des ustensiles de cuisine. Et tout ça, ce sont des secteurs qui s'influencent, en fait. Hein. Voilà, il y a des grandes lignes qui se dégagent et eux, ils savent capter ça.
Et maintenant, la consécration, elle est venue avec l'inclusion des meubles Drugeot au mobilier national.
Alors, le mobilier national, en fait, c'est venu un petit peu par surprise. Depuis, alors ça doit faire 4 ou 5 ans, c'est un nouveau directeur qui s'appelle Hervé Lemoine et qui a une politique d'ouverture qui est, je trouve, super. Parce que il considère que le mobilier national, c'est pas forcément un lieu où on conserve le mobilier de style, mobilier ancien, mobilier du passé. Non, c'est un lieu qui doit aussi être le reflet des tendances actuelles. Et ils ont une politique d'achat qui est beaucoup plus contemporaine qu'avant. Donc, ils achètent des pièces de designers, voilà, et nous, on les a rencontrés sur un salon, mais un objet toujours le même. Et ils sont venus nous voir en nous demandant de leur fabriquer 2 tables basses et puis 2 modèles qu'ils ont voulu faire sur mesure. Une grande table à manger et puis une bibliothèque aussi qu'ils ont voulu plus large que le standard. C'est une reconnaissance de notre travail, de rentrer dans les collections du mobilier national parce que du coup c'est pérenne, on est dans un catalogue, on est alors peut-être dans le fond d'un hangar quelque part en région parisienne, c'est possible, je sais pas exactement, mais en tout cas on est à la disposition des décorateurs, des ministères, des ambassades.
Donc en fait c'est plus un coup de foudre.
Oui, je dois vous avouer, je sais pas exactement pourquoi, parce qu'on n'a pas répondu à un appel à candidature. C'est eux qui sont venus nous voir.
On va faire une petite pause musicale avec le groupe America, un grand classique, Horse With No Name, un titre de 1971. Mais restez avec nous sur Radio Campus tout de suite après la pause, les influences de l'entreprise d'ébénisterie.
Cause there ain't no one for to give you no pain.
culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Vous êtes bien sur Radio Campus Angers, Franche Culture, et nous sommes toujours en direct du site de l'entreprise Drugeot Manufacture à Segré, entreprise familiale d'ébénisterie depuis 1968. L'entreprise a su mixer avec bonheur le savoir-faire traditionnel et la modernité de ses collections, qui séduisent un public toujours plus exigeant. Un public sensible aux influences japonisantes, aux bois très clairs, aux lignes épurées. Des meubles souvent déstructurés, quitte à défier les règles de l'apesanteur.
On a un grand miroir là, c'est un bon exemple, c'est une forme très simple mais qui produit son effet parce qu'elle a, elle a des dimensions qui sont assez hors du commun, une profondeur aussi qu'on voit pas partout. Donc c'est quelque chose qui interpelle, qui attire l'œil, un bon exemple de simplicité sans être simpliste. Ça se joue à quelques milliers de près et là c'est un designer qui est très fort qui s'appelle Hervé Langlais, c'est un ancien architecte qui a travaillé avec Paul Andreu, donc architecte réputé. Il a fait aussi les étagères comme ça, pliage là. Donc vous voyez, c'est deux planches en fait, on pourrait se dire c'est super simple en fait, tout le monde peut le faire, mais non, si on change un peu la dimension, ben, ça marche plus, ou l'angle, ou voilà. Les influences aujourd'hui, ben, je pense qu'on est influencé sans le savoir, c'est même inconscient. Là, on est dans des lignes qui sont beaucoup plus arrondies, donc on a voulu retravailler, revenir dans l'épaisseur du bois, montrer vraiment des beaux assemblages, des belles épaisseurs, des choses plus douces que ce qu'on faisait avant, qui étaient très anguleuses et très géométriques.
Alors, faut pas hésiter à aller voir sur leur site, hein, parce qu'on entend bien là qu'il nous fait une description pendant l'interview, mais il faut aller voir sur leur site leur forme très originale. L'entreprise Drugeot, elle est aussi sensibilisée au développement durable. Elle a reçu un label, Sustainability du Salon Maison et Objets, un autre élément essentiel pour l'entreprise qui répond aussi à ce label. C'est le bois. 80% des fournisseurs de l'entreprise se situent à moins de 200 km de l'entreprise. De quel bois s'agit-il ? Petit tour d'horizon des essences que l'on peut trouver chez Drugeot Manufacture.
On achète des planches, donc vraiment le tronc d'arbre qui est débité en planches. Là, ça vient de Parthenay de Bretagne, donc c'est juste à côté de Rennes. Et eux achètent suivant les coupes dans les forêts, beaucoup en Bretagne, puis aussi dans l'est de la France et dans le centre de la France, et dans les Ardennes, tout en France. Le deuxième, c'est on achète des panneaux massifs. Une table comme ça, c'est constitué d'un panneau, et ce panneau-là est lui-même constitué de morceaux comme ça qui sont collés les uns aux autres. Et ça, on les achète dans le Choletais, chêne massif. Les essences françaises les plus cotées dans l'ordre, c'est le noyer. Le noyer, c'est ça. C'est un très beau bois, c'est quasiment un bois de luxe, hein, parce qu'il est devenu tellement cher que c'est difficile à utiliser, il faut pas avoir de perte. Après, c'est le chêne, après, c'est le frêne, après, c'est le hêtre, et puis c'est tout pour ce qu'on utilise. Il y a le sycomore aussi, qui est assez joli. Sycomore, c'est un bois blanc, c'est ça. C'est un bois qui est très blanc, qui peut ressembler à du peuplier, mais qui est plus dur que le peuplier. Et voilà, donc les 4 ou 5 essences principales qu'on utilise.
Alors vous l'aurez compris, hein, dans l'émission Franche Culture, on a fait une très belle découverte. C'est un beau fleuron de l'artisanat local. C'est pas si souvent. Vous retrouverez la collection de meubles et objets en bois massif Drugeot sur leur site drugeot.com.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors après ce petit jingle, on va poursuivre avec vous, Marie-Josée, pour des idées de lecture.
Oui, Marie, je vais présenter...
Vous allez nous présenter deux romans, publiés aux éditions du Seuil, d'un même auteur, Rachid Benzine. Alors, Rachid Benzine, en février dernier, il a été à Angers, aux entretiens littéraires, qui se sont déroulés à la Collégiale Saint-Martin, comme tous les ans. Il a donc parlé de ses ouvrages. Ces deux ouvrages, vous les avez trouvés légers comme des papillons par leur poids, parce qu'il y en a un qui fait 79 pages et l'autre 96 pages. Mais lourd comme des éléphants par le sujet traité, puisqu'il s'agit de l'état de Daesh. Alors tout d'abord, on va s'intéresser à l'auteur. Qui est Rachid Benzine ?
Rachid Benzine a 53 ans. Il est de nationalité franco-marocaine, enseignant-chercheur, islamologue, politologue et écrivain. Il est musulman. Il est qualifié de nouveau penseur de l'islam et il dialogue avec les catholiques, les protestants et les juifs. Les catholiques lui ont d'ailleurs octroyé un prix littéraire pour un livre écrit en commun avec la rabbin Delphine Horviller, dont le titre est « Des mille et une façons d'être juif ou musulman ». Quand on le voit grand et fort, on ne s'étonne pas qu'il ait été champion de France de kickboxing.
Vous êtes allé le voir aux entretiens littéraires ?
Non, j'ai pas pu, hélas.
Alors, avec Rachid Benzine, on voit, c'est un humaniste éclairé. On va commencer avec le premier roman que vous avez choisi. Ce roman s'appelle « Lettre à Nour ». C'est devenu une pièce de théâtre qui a été soutenue par Francis Huster. À la sortie du roman, en 2016 déjà, il portait un autre titre. Pourquoi ?
Le titre initial était « Nour, pourquoi n'ai-je rien vu venir ?» Et vous allez comprendre pourquoi. Je vous lis le tout début du livre qui donne d'emblée le ton glacial. « Mon cher papa, je sais que cette lettre va te faire du mal. Pourtant, je veux te dire combien je t'aime. Papa, je t'ai demandé l'autorisation de passer quelques jours chez tante Safia. Je n'y suis pas allée. Pardonne-moi, je t'ai menti. Avant hier soir, je suis arrivée en Irak pour rejoindre mon mari. Nous nous sommes connus sur Internet. Il est formidable. Je suis sûre que tu l'aimeras. C'est un responsable régional de l'État islamique. Il s'appelle Akram. » Fin de citation. Son père, brillant universitaire, musulman pratiquant et épris de la philosophie des Lumières, est dévasté par cette nouvelle. Sa fille de 20 ans, belle, intelligente et cultivée, est tombée dans les griffes du mal, corps et âme.
Alors qu'est-ce qui se passe ensuite, entre les deux, le père et la fille ?
Un enlacement de deux modes d'expression épistolaire en complète opposition, celui d'un père et celui de sa fille. On ne comprend pas l'aveuglement de Nour, qui se dit au paradis terrestre alors qu'elle reste cloîtrée chez elle, habillée en burqa, pour n'être belle que pour son mari. Mari qui est un monstre, ambulant, puisqu'il tue. Son père l'exhorte à la raison et la somme de revenir. Pourtant, chacune des lettres commence par des phrases d'amour pur, sincère. Et le lecteur se dit « ça y est, elle a compris, enfin !» Mais non, elle passe toujours aux injures et elle traite son père de lâche, d'hypocrite. Elle le méprise de ne pas la rejoindre et lui reproche de ne pas respecter sa liberté d'expression qu'il lui a enseignée. Alors 2 ans passent et ce qui devait arriver arrive. Un drame survient dans la vie de Nour. Et là, le lecteur reste sans voix.
Bon, Marie-Josée, rassurez-nous, est-ce que cette correspondance entre le père et la fille porte un message d'espoir ?
Oui, fort heureusement, il en porte un. Car au-delà des croyances, ce livre révèle que seule la vie est sacrée.
Et le style de Rachid Benzine, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Le style, c'est bien simple. Il est limpide, sans aucun grumeau, alors que l'histoire prend l'eau dès la première page.
On va passer au second ouvrage intitulé « Voyage au bout de l'enfance ». Ce titre, François Bunel de l'émission La Grande Librairie en avait parlé, il l'avait qualifié de bouleversant. C'est un livre qui est sorti en 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Oui, cette fois encore...
Un livre bouleversant.
Ce n'est pas un livre d'évasion. Hein. Rachid Benzine nous plonge dans une profonde réflexion avec les tourments du drame djihadiste. Et dans ce roman, c'est à la hauteur d'un enfant de 7 ans que l'auteur raconte le cauchemar de la vie dans les camps de Daesh. De quoi s'agit-il ? Fabien est un petit garçon heureux à Sarcelles. Il aime le foot, la poésie et ses copains. Ses parents lui annoncent un jour qu'il quitte la France pour rejoindre la terre promise en Syrie. Et là, Fabien devient Farid. Vous avez bien entendu, Fabien est né chrétien, mais c'est sa mère qui a converti toute la famille à la religion musulmane. Farid, donc, assiste aux rapides déconvenues de ses parents, alors que le paradis escompté s'avère un enfer. Pourtant, en 2019, le califat de Daesh tombe. Mais leur sort reste tout aussi désespéré et on assiste à l'atrocité de leurs conditions de vie, la terreur et la violence des camps.
Donc on a compris, hein, pas des romans de distraction, mais plutôt de réflexion et d'actualité. Et là aussi, dans ce roman, Rachid Benzine, il donne de l'espoir.
Oui, car depuis 2019, précisément, la France a rapatrié 300 enfants de parents radicalisés. Ils sont en reconstruction auprès de leur famille et découvrent, entre autres, que les filles et les garçons peuvent jouer ensemble. Quant à leur maman, elles ont été mises en prison dès leur rapatriement sur le territoire national.
Marie-Josée, merci pour ce partage enthousiaste. Rachid Benzine, je le rappelle, est publié aux éditions du Seuil. Vous pouvez donc retrouver ses ouvrages dans vos librairies préférées. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h et bien sûr en podcast. Alors merci beaucoup à Étienne pour la technique, un grand soutien aujourd'hui. Merci à Bénédicte et Cécile pour la préparation de l'interview de l'entreprise Drugeot. Merci à Marie-Josée pour sa chronique livre. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux, sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.